et le sud-ouest avec de bonnes rafales de vent, en particulier sur les côtes atlantiques. Le temps reste sec près des frontières de l'Est, mais le ciel est couvert et sur le nord-ouest du pays, nous aurons un ciel de traîne cet après-midi avec de nombreux nuages, quelques averses et des températures très contrastées. L'air froid résiste encore sur l'est du pays avec 3 degrés cet après-midi à Strasbourg, 6 degrés à Lyon, 7 à Lille, mais le redoux se confirme par l'ouest du pays avec 10 degrés cet après-midi à Tours, 9 à Paris, 15 à Bordeaux.
Très bonne fin d'après-midi sur France Info en ce dimanche. Je vous laisse en compagnie de Thomas Séchy jusqu'à 20h. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Une permission de sortie de quelques heures accordée à un détenu le temps d'une journée. La chose n'est pas inhabituelle, sauf qu'elle concerne pour la première fois l'un des 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France, détenu dans la toute nouvelle prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Cette permission de sortie qui tranche avec le régime carcéral ultra strict vanté par le ministre de la Justice Gérald Darmanin dans cette prison. Alors le secrétaire général du syndicat pénitentiaire FO Emmanuel Baudin est notre premier invité pour réagir dans 10 minutes. Bienvenue dans le 17-20 de France Info. Il est 17h.
France Info, 17h-20h, Thomas Séchier.
Toute l'info avec vous, Philippine Thibaudot, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
À la une, c'est en Suisse que se joue l'avenir de l'Ukraine.
Oui, un balai de voitures aux plaques diplomatiques à Genève, américains, ukrainiens et européens réunis pour tenter d'arracher un accord de paix plus favorable à l'Ukraine. L'idée du retour du service militaire commence à faire son chemin. Quelques pistes sont évoquées sur une nouvelle version basée sur le volontariat. Des élèves moins fatigués, plus épanouis, c'est l'objectif de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Elle rend ses conclusions aujourd'hui. Salut par la Fédération des parents d'élèves. Et puis c'est désormais le film japonais le plus rentable de l'histoire. On vous parle de Demon Slayer qui a séduit déjà près d'1 800 000 spectateurs en France. L'attente d'une fumée blanche à Genève, c'est là depuis ce matin qu'Américains, Européens et Ukrainiens discutent et négocient le plan de paix en Ukraine proposé par Donald Trump, mais dont le président ukrainien ne veut pas en l'état parce que trop favorable aux Russes. L'objectif donc pour Kiev, c'est de le faire modifier tout comme pour les Européens, Jérémy Lanche.
Les conseillers à la sécurité nationale français, britannique et allemand sont venus à Genève pour tenter d'amender le plan de Trump. Une contre-proposition serait sur la table, c'est ce qu'a dit le chancelier allemand Friedrich Merz, qui se dit dans le même temps peu optimiste sur les chances d'obtenir un accord d'ici jeudi, date de l'ultimatum fixé à Volodymyr Zelensky pour donner sa réponse. Les discussions en tout cas se poursuivent à Genève. Après avoir rencontré les Européens, la délégation ukrainienne s'entretient avec les envoyés américains. Tout ça se fait à huis clos et alors que les principaux acteurs s'expriment en même temps sur les réseaux sociaux. Côté face, Volodymyr Zelensky qui estime que le plan américain pourrait inclure plusieurs éléments essentiels pour les intérêts nationaux de l'Ukraine. Côté pile, Donald Trump qui a publié un message incendiaire accusant les Ukrainiens d'ingratitude au regard de ses efforts pour mettre fin à la guerre.
Jérémy Lange, correspondant à Genève pour France Info, des coups de fil sont en préparation. Toujours pour parler de l'Ukraine, le président turc a notamment annoncé qu'il contacterait demain à ce propos Vladimir Poutine. Le président libanais en appelle à la communauté internationale une intervention avec force pour que les attaques israéliennes cessent. L'une d'entre elles a eu lieu sur la capitale, Beyrouth. Le premier ministre israélien assurant cibler le chef d'état-major du Hezbollah. Dans la frappe, 5 personnes sont mortes selon les autorités libanaises. Différents fronts de guerre aux portes de l'Europe qui poussent Emmanuel Macron à reconsidérer le service militaire disparu il y a plus de 30 ans. C'est en réflexion, effectivement, nous apprenait ce matin la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées sur France Info. Une nouvelle version dont le mot-clé est le mot volontariat. Alors concrètement, quelles sont les pistes, Éric Bigala ?
Ce service militaire revisité prendra le nom de service national volontaire et reposera, comme son nom l'indique, sur du volontariat. Mais il s'agira bien d'un service militaire avec une formation au métier des armes sur 10 mois, une formation rémunérée. La ministre déléguée aux armées, Alice Ruffaut, confirmait ce matin sur l'antenne de France Info que ce projet de nouveau service national était bien dans les tuyaux.
Je confirme que depuis le 13 juillet dernier, quand le président s'est exprimé à l'hôtel de Brienne, il a demandé au ministère des armées de travailler sur un cadre d'engagement renouvelé. Et donc oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez parlé de volontariat, c'est effectivement un mot-clé. Vous avez, dans plusieurs pays européens, des réflexions là-dessus. Tout le monde y travaille, donc nous aussi on y travaille.
Objectif de ce nouveau service national, à court terme, former tous les ans 10 000 jeunes Français volontaires et majeurs au maniement des engins ou des armes, mais aussi mettre à profit pour les armées le gisement de compétences qui existe au sein d'une classe d'âge.
On constate que face à la conflictualité qui est la nôtre. Il y a beaucoup de compétences qui sont requises dans beaucoup de cadres et qu'on doit absolument les utiliser. Une de nos très grandes forces, c'est qu'on a une jeunesse qui a des compétences technologiques qui doivent absolument pouvoir trouver un cadre pour notre défense.
Il restera encore à trouver le budget pour lancer ce service national revisité. À l'heure des discussions budgétaires compliquées pour 2026, ce n'est pas gagné.
Éric Bigala, vous parliez du budget 2026 et dans ce cadre, les sénateurs ont adopté aujourd'hui à main levée la vaccination obligatoire contre la grippe des soignants. On parle de ceux exerçant un titre libéral, mesure qui avait été écartée par l'Assemblée nationale.
Il est 17h05 sur France Info. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfance est terminée aujourd'hui.
6 mois de travaux et 20 recommandations pour soulager les élèves. 130 citoyens tirés au sort ont planché dessus. Ça comprend notamment un début de journée à 9h plutôt qu'à 8, une semaine à 5 jours plutôt qu'à 4, ou encore deux zones de vacances au lieu de 3 existantes. Tout ça est une très bonne idée pour Grégoire Ancel, le vice-président national de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves.
Si on se place vraiment du point de vue de l'enfant et de son intérêt pour l'accès aux apprentissages, la réduction des inégalités et la capacité à être attentif, concentré et participatif, c'est effectivement un horaire qui correspond le mieux, là encore, aux intérêts de l'enfant et donc à condition de s'organiser en termes de transport. Ça va demander un certain mouvement de la société, mais c'est tout à fait souhaitable et envisageable, effectivement. Si on veut vraiment que l'école soit facteur d'égalité, permette aux enfants d'apprendre dans les meilleures conditions possibles, il faut qu'on ait collectivement le souci de réorganiser les choses. Ça va être pour nous un des enjeux forts des élections municipales, mais aussi des questions à centrer dans la campagne des présidentielles à venir, parce qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas et on voit bien qu'on a une école qui est totalement décalée par rapport aux besoins des enfants et donc c'est totalement préjudiciable à leur développement et à leurs apprentissages.
Grégoire Ancel, le vice-président national de la FCPE avec Benjamin Fontaine sur France Info qui parlait justement des municipales et de la présidentielle. Ces recommandations seront justement remises aux chefs de l'État, aux parlementaires et aux élus locaux pour en alimenter les débats. Et maintenant, une question posée par une étude pilotée par le CHU de Besançon. Les prothèses mammaires en silicone sont-elles vraiment sûres? En France, cela concerne environ 400 000 femmes souvent après un cancer du sein. Et selon le rapport, elle provoque en fait une inflammation qui peut déclencher une maladie auto-immune. Anne-Laure Daniel, les chercheurs ont analysé les prothèses d'une cinquantaine de femmes.
Ils ont prélevé des tissus dans le sein de 43 patientes qui devaient changer leur prothèse mammaire et ils ont découvert la présence de microparticules de silicone et de cellules du système immunitaire, celles qui sont chargées de nettoyer ces corps étrangers. L'équipe a aussi détecté l'activité de plusieurs gènes associés à des maladies auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Ils ont donc établi le lien entre la présence de silicone et une réponse immunitaire de la patiente. Mais il n'y a pas forcément de quoi s'affoler, rassure le docteur Isabelle Pluvy, qui a mené l'étude.
Le fait d'avoir de l'inflammation, ça ne veut pas dire forcément être malade. Toutes les patientes ont un petit niveau d'inflammation qui est plus ou moins intense selon le modèle de prothèse, par exemple, et selon l'état de la prothèse. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose pour lequel il faut s'inquiéter. Mais par contre, il faut réaliser comme un suivi régulier de ces implants pour dépister une éventuelle évolution vers ce type de maladie.
Le docteur Pluvy espère que sa découverte permettra d'améliorer ces implants mammaires en silicone pour en fabriquer une nouvelle version qui stimulera moins le système immunitaire des patientes.
Anne-Laure Danier pour France Info.
C'est un phénomène venu du Japon, la saga Demon Slayer.
Oui, une collection de mangas devenue une série animée puis des films sortis en salle. Ça raconte l'histoire d'un jeune chasseur de démons et sa dernière aventure. Matteo Mastracci est devenu cette semaine le film japonais le plus rentable de l'histoire.
Ce que nous allons vivre n'est rien d'autre qu'un épilogue.
Et la France n'échappe pas à ce raz-de-marée, avec près d'1 800 000 spectateurs dans les salles depuis mi-septembre, après le succès déjà impressionnant du chapitre précédent, Le Train de l'Infini, sorti en 2021. Plus de 700 000 spectateurs alors, dans des cinémas pourtant encore handicapés par les jauges de l'époque Covid. Pas surprenant pour Didier Passamonique, commissaire de l'Expo Manga, présenté en ce moment au musée Guimet à Paris.
Le manga lui-même, il est très très bien fait, il est très passionnant, mais il n'a rien d'exceptionnel. Ce qui a été exceptionnel avec Demon Slayer, c'est le dessin animé. Le dessin animé qui a fait ce score incroyable que vous racontez, c'est un des plus beaux dessins animés de l'histoire du dessin animé japonais. La qualité de l'animation, c'est au-dessus de tout.
Demon Slayer, la forteresse infinie, a dépassé les 100 milliards de yens de recettes dans le monde, soit 556 millions d'euros, dont plus de 90 millions hors du Japon, ce qui en fait le film japonais le plus rentable de l'histoire, devant les œuvres mondialement célébrées d'un certain Hayao Miyazaki, comme Le Voyage de Chihiro.
Alors que la fête commence.
Eh bien, ça donne envie. Matteo Maestrachi, service culture de France Info. Du foot ce soir avec la suite de la Ligue 1. Il y a quelques minutes, match nul entre Auxerre et Lyon, 0 partout. Dans environ 5 minutes, Toulouse va affronter Angers. Brest sera face à Metz et Nantes rencontrera Lorient. Et Lille reçoit le Paris FC à 20h45 pour la clôture de cette 13e journée. Et puis, quelques minutes plus tard, à 21h05, le Stade français accueille Toulon en top 14. Voilà pas mal de sport à suivre ce soir, bien sûr, sur France Info.
Merci beaucoup, Philippine Thibaudeau.
Les éditions Radio France présentent
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre de Thomas Negaroff et Benjamin Stora.
Hérité d'une longue colonisation et d'une guerre d'indépendance sanglante, l'histoire commune de ces deux pays reste à vif. Après la libération de Boualem Sansal, la réconciliation est-elle possible?
Un ouvrage clair, enrichi de cartes.
France-Algérie, anatomie d'une déchirure.
Un livre France Inter.
Il est 17h10 sur France Info. Les 100 narcotrafiquants les plus dangereux de France sont censés y être enfermés depuis cet été. Et pourtant, l'un des détenus du quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais va pouvoir sortir pendant quelques heures de la prison demain. Une permission de sortie accordée pour se rendre chez un possible futur employeur. C'est la polémique du jour.
France Info, 17h20.
Bonsoir Emmanuel Baudin.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat FO Pénitentiaire, syndicat de surveillants de prison. Est-ce que cette permission de sortie vous choque ?
Oui, bien sûr, oui, elle nous choque, elle choque, je pense, l'opinion publique. Elle est surtout incompréhensible et elle met à mal un nouveau régime qu'on vient de créer, qui est les quartiers de haute sécurité, où l'idée était de mettre des gens sous cloche pour éviter qu'ils aient un contact avec l'extérieur. Il fait partie des 100 détenus les plus dangereux et là, on va le laisser sortir pendant près de 14 heures à l'extérieur, alors que d'habitude, dans l'établissement, il est isolé, il a des parloirs hygiophones, il n'a aucun contact avec l'extérieur et là, on le laisse sortir toute une journée. C'est tout simplement inacceptable.
On précise que ce n'est pas une libération, c'est une permission de sortie de quelques heures, 14 heures, vous nous dites, donc du matin au soir, pour rencontrer un futur employeur. On imagine quand même qu'il a dû fournir un certain nombre de preuves, de garanties pour bénéficier de cette permission.
En tous les cas, ce qu'il a fourni n'a pas suffi pour qu'il ait un accord de la commission qui s'est tenue ou qui réunit l'ensemble des partenaires de l'administration pénitentiaire, des surveillants, des conseillers d'insertion et de probation, psychologues, directeurs. Même le procureur a fait appel de cette décision. Donc je pense qu'à part le juge d'application des peines, personne ne croyait à la nécessité que ce détenu sorte. Enfin, sinon, il n'a rien à faire en quartier de haute sécurité. Rappelons que ce détenu s'est évadé avec un commando en 2014. Rappelons aussi qu'il est libérable en 2029 et que je crois savoir que au vu des trafics qu'il entretient, il n'a pas vraiment besoin de trouver du travail. Financièrement, visiblement, tout va bien pour lui.
Alors écoutez justement Emmanuel Baudin, si vous le voulez bien, la réaction de Flavie Rau. Elle est secrétaire générale du SNDP-CFDT. Elle représente les directeurs de prison et elle, cette permission de sortie ne la choque pas. Elle emploie notamment deux arguments. Écoutez.
Il faut admettre que parmi l'ensemble des détenus qui composent cet établissement, on a des détenus qui ont une dangerosité très très variable. Tout le monde n'est pas l'ennemi public numéro un. On est sur des détenus qui ont été évalués à un moment comme parmi les plus dangereux. Et au sein de ces détenus, il y a déjà des degrés de dangerosité différents. Et puis, il y a des détenus qui sont encore prévenus. Certains ont des peines extrêmement longues, d'autres beaucoup moins. D'autres ont déjà un parcours de détention derrière eux, qui est parfois positif. Et il peut arriver qu'il y ait des divergences de point de vue sur ces détenus-là. Mais je dois aussi rappeler quand même le délai dans lequel le casting de ces détenus a été réalisé. Je pense qu'on ne peut pas non plus exclure que certains détenus, peut-être avec le temps, on considéra qu'ils étaient peut-être insuffisamment dangereux pour rejoindre.
C'est une erreur. Il est pas assez dangereux pour figurer dans ce quartier de haute sécurité. Ça peut être une possibilité.
Alors, ça fait partie des choses qui sont possibles. Et surtout, peut-être que les informations sur ce détenu qui était disponible au moment du choix de son affectation ont évolué depuis. La connaissance qu'on a des détenus, de leur profil, elle évolue avec le temps. Elle évolue notamment lorsque des condamnations arrivent et sont posées. Elles permettent de réévaluer ce qu'on reproche aux détenus, alors qu'avant, on suspectait des choses sans certitude. Un ensemble de faits qui surviennent au fur et à mesure de la peine nous permettent de réajuster l'évaluation que l'on fait. Ça s'appelle l'individualisation de la peine. Et je tiens à rappeler que c'est un principe constitutionnel et qu'on a quand même fortement tendance à l'oublier. On est un petit peu aidé pour l'oublier par notre garde des Sceaux et aussi par un certain nombre de personnes qui s'expriment volontiers en ce moment dans les médias.
Flavie Rowe, secrétaire générale du syndicat de directeurs de prison SNDP, CFDT, Emmanuel Baudin, est-ce qu'il y a eu des erreurs de casting? Est-ce que certains de ces 100 narcotrafiquants emprisonnés à Vendin-le-Vieil ne devraient pas en fait se trouver dans cette prison de haute sécurité et ne sont peut-être pas aussi dangereux qu'on le dit?
Non, je ne crois pas du tout. Je pense que cette représentante des directeurs de prison se trompe. D'ailleurs, c'est les magistrats qui décident ou non de placer ces gens dans ces quartiers. C'est pas le ministre, c'est pas l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire a présenté une liste avec le ministre et les magistrats ont accepté ou pas. Donc le magistrat qui a accepté doit suffisamment connaître le dossier de ce détenu pour savoir qu'il avait toute sa place dans ce quartier. Sinon, croyez-moi, on en aurait mis un autre. Enfin, ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de moyens que de gérer ces détenu à Vendin-le-Vieil, maintenant qu'on est sur Sarthe, on a autre chose à faire que de mettre des détenus qui n'auraient pas le profil dans ce type d'établissement. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec cette représentante.
Gérald Darmanin vient justement de réagir, le ministre de la Justice, sur le réseau X, qui dit tout d'abord qu'il ne commente pas cette décision individuelle d'un juge, mais il dit ensuite vouloir moderniser et consolider les règles encadrant l'exécution des peines pour les criminels les plus dangereux. Est-ce que vous partagez ce souhait de la part du ministre ?
Oui, alors nous, on va plus loin, nous, puisqu'on demande la suppression des juges d'application des peines. Nous, on demande à ce que ce soit l'administration pénitentiaire qui soit à la manœuvre. C'est-à-dire que, comme en Espagne, c'est l'administration pénitentiaire qui décide des aménagements de peine et qui donne un avis et qui gère les aménagements, les conditions de détention. C'est nous qui donnons des comptes rendus aux magistrats pour prendre les décisions. Alors là, en l'occurrence, on avait donné un avis défavorable, mais le magistrat a passé outre. Donc je pense qu'il faut nous donner à nous qui travaillons tous les jours avec les détenus, qui les connaissons le mieux, la main sur ces aménagements de peine. On demande aussi la création d'un nouveau régime de détention qui est l'incarcération domicile. Enfin, aujourd'hui, les magistrats gèrent les entrées en prison et gèrent les sorties. Le résultat, c'est 25 000 matelas, c'est 25 000 détenus de trop, c'est 6 000 matelas au sol, c'est 11 000 bracelets électroniques qui sont dans les tiroirs. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, donnons la main à l'administration pénitentiaire, aux professionnels qui connaissent le mieux les détenus et qui sauront décider de qui doit purger quoi comme peine et si des aménagements de peine doivent être prononcés.
Emmanuel Baudin, ça ressemble à quoi une permission de sortie? Est-ce qu'elle est encadrée ou est-ce que le détenu a la totale latitude et liberté de ses faits et gestes durant le temps de cette permission?
Alors ça dépend. Elle peut être accompagnée de personnel pénitentiaire, d'insertion de probation ou de surveillant ou libre.
Est-ce que vous savez si ce sera le cas demain?
Visiblement, elle sera libre, et tant mieux, parce que j'ai pas envie qu'un personnel pénitentiaire en accompagnance détenu fasse l'objet d'attaques, parce qu'on sait jamais. Maintenant, toute la France sait que ce détenu va sortir, et je pense qu'il a pas que des amis à l'extérieur. Donc si jamais quelqu'un voulait régler ses comptes, et je voudrais pas voir un personnel de l'administration pénitentiaire risquer sa vie en accompagnance détenu chez le patron.
Encore un mot, Emmanuel Baudin, est-ce que ça n'est pas normal aussi que des détenus puissent préparer leur réinsertion, même dans le cas de ces narcotrafiquants qui, pour la plupart, d'ailleurs, sortiront de prison un jour ou l'autre, a priori?
Oui, alors il n'y a pas de sujet. Nous, on est pour la réinsertion. Ça fait partie de nos missions. Mais pas là, pas sur des détenus qu'on a ciblés, des détenus qui gèrent des réseaux de trafiquants de drogue, qui sont mis dans un quartier spécialisé où on les a coupés du monde, où on a mis des moyens extraordinaires. Et ce garçon, d'ailleurs, je vous le dis, moi j'ai demandé à l'administration pénitentiaire, au cabinet du ministre, que ce détenu sorte du quartier de haute sécurité. Quand il rentre demain, c'est pas la peine de le replacer au quartier de haute sécurité. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, qu'on fasse des aménagements de peine, qu'on accompagne et qu'on aide les détenus à se réinsérer, c'est tout à fait nos missions. Mais il faut cibler, il faut que ce soit en cohérence avec le placement où est le détenu. Et là, un détenu de quartier de haute sécurité ne peut pas bénéficier de permission de sortie. C'est totalement impossible.
Merci beaucoup d'avoir réagi sur France Info. Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO Pénitentiaire, syndicat des surveillants de prison. À suivre dans France Info Monde, les vives tensions entre la Chine et le Japon. Pékin qui s'en prend au film japonais.
France Info, 17h-20h.
On voit ça juste après votre fil info. Philippine Thibaudeau à 17h19. avec à la une les Européens qui tentent d'amender le plan de paix américain pour l'Ukraine.
Les délégations ukrainiennes, européennes et américaines sont à Genève en Suisse pour arracher un accord de paix plus favorable à l'Ukraine. Le document en 28 points jugé favorable à la Russie, mais dont la version est aux dernières étapes de son approbation, estime le chef du Conseil de sécurité ukrainien. Une ligne rouge franchie par Israël, c'est ce que considère le Hezbollah après l'attaque à Beyrouth au Liban qui visait un des chefs d'état-major du mouvement pro-iranien. 5 personnes sont mortes dans la frappe israélienne, rapportent les autorités libanaises. Dans le Gard, un homme est mis en examen pour le meurtre de sa compagne. La femme de 50 ans a été retrouvée morte jeudi, le visage tuméfié à son domicile à Beaucaire. Lui a assuré qu'elle avait fait une chute et n'avoir pas de souvenirs précis. Et puis il va parler pour la première fois depuis sa libération. Boualem Sansal s'exprimera ce soir dans le journal de 20h sur France 2 et dans une version plus longue à 21h sur la chaîne France Info Canal 16. L'écrivain franco-algérien a été gracié par l'Algérie la semaine dernière après avoir passé presque un an en détention.
Info. Et c'est l'heure de retrouver France Info Monde avec Catherine Potier.
France Info Monde est en Chine ce soir, pays que vous connaissez bien. Dominique André, bonsoir.
Bonsoir Catherine.
La Chine qui continue de frapper fort contre la nouvelle première ministre japonaise après ses déclarations en faveur de Taïwan. Le gouvernement chinois vise maintenant le cinéma de l'archipel nippon et pas n'importe lequel, Dominique.
Papa,
hey, hey.
Alors il s'agit de deux films d'animation japonais. Alors l'extrait qu'on entend, c'est celui des Brigades immunitaires. C'est un manga qui a été adapté au cinéma et qui raconte l'histoire d'un père qui élève seul sa fille depuis la mort de sa femme. Le film a fait un carton au Japon. La sortie dans les cinémas en Chine était prévue début décembre, mais elle est reportée sans que les autorités chinoises donnent de nouvelles dates. Il y a aussi un deuxième film pour la jeunesse, c'est la nouvelle aventure cinématographique de Chin-chan, un petit personnage très espiègle d'une célèbre série animée japonaise, Crayon Chin-chan, dont raffolent les enfants japonais depuis des dizaines d'années et qui devait sortir aussi en Chine dans les prochains jours. Mais l'administration du cinéma en Chine, organisme officiel, a considéré qu'il s'agissait d'une décision prudente compte tenu de l'état d'esprit actuel des spectateurs chinois. Alors je me demande bien quand même quel est l'état d'esprit des enfants chinois, ce qu'ils pensent des tensions diplomatiques entre leur pays et le Japon. En attendant donc, ils n'iront pas au cinéma pour voir ces deux nouveaux films. La censure touche toutes les générations en Chine. Bon, mais c'est pas la première fois, Dominique, que le régime de Pékin s'en prend à la culture.
Et surtout Xi Jinping, le chef d'État et secrétaire général du Parti communiste chinois au pouvoir depuis 13 ans maintenant. On sait que Xi Jinping a relancé la doctrine marxiste, qu'il a fait inscrire sa pensée dans la constitution chinoise, et sa pensée, c'est la ligne directrice que la Chine doit suivre, notamment sur le plan culturel. Xi Jinping veut limiter l'influence culturelle que peuvent avoir en Chine les pays occidentaux, le Japon, comme on le voit en ce moment avec ses films, et puis un autre voisin, Catherine.
Ah ben mais ça c'est de la K-pop, la musique pop sud-coréenne, ça veut dire que les autorités chinoises s'en méfient aussi ?
Mais oui, tout à fait, ça fait presque 10 ans que ça dure, que la K-pop est dans le collimateur du régime de Pékin. En fait, en 2016, Xi Jinping avait riposté au déploiement du système de défense antimissile THAAD sur une base américaine en Corée du Sud. Il avait imposé un embargo officieux sur les produits culturels sud-coréens, dont la musique pop, la K-pop. En septembre dernier, ce devait être le grand retour de la scène K-pop sud-coréenne en Chine continentale. Et là encore, le concert a été reporté au grand désespoir des nombreux fans chinois. C'est donc sans fin. La censure reste une mesure de rétorsion contre les pays qui osent défier le régime de Xi Jinping.
Quand l'escalade verbale autour de Taïwan affecte la culture japonaise, la Chine suspend la sortie de deux films d'animation japonais. France Info Monde, Dominique André, à retrouver en podcast sur franceinfo.fr.
Et avec vous, Catherine Potier. Voici ces chansons qui font l'actu. Bertrand Dical, vous avez choisi de nous parler des Beatles.
Cette semaine, l'actualité musicale, c'est aussi les Beatles. Non pas un de ces concerts à peine audibles que l'on écoute avec beaucoup de compassion pour quatre musiciens qui eux-mêmes s'entendaient à peine jouer en étant sur scène. Non, l'actualité, c'est le 30e anniversaire d'Anthologie, la première des compilations de trésors inédits des Beatles, des répétitions, des brouillons, des versions alternatives, des chansons qui ont changé le monde. Et pour fêter l'orgie beatlesienne de 1995, voici que sort le double album Anthologie 4.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real.
I'd like to be one beneath the sea, in an octopus's garden.
La prise 26 de l'enregistrement de Strawberry Fields Forever, une répétition d'Octopus's Garden, encore des trésors, oui, mais rien de vraiment inédit, puisque ces versions-là sont déjà parues au cours des dernières années sur des rééditions augmentées des albums historiques des Beatles, y compris une chanson de Paul McCartney dont il n'était resté que quelques secondes sur le pressage original de l'album blanc. C'est un peu triste. Nous sommes 55 ans après la séparation des Beatles et il semble bien qu'il ne reste plus rien de nouveau à écouter. Et nous avons même la nostalgie d'une chanson qui, il y a 30 ans, faisait polémique parce qu'il s'agissait d'un titre posthume, mais maintenant, c'est un classique. D'ailleurs, quand on remonte le temps, on se rend bien compte que parler des Beatles, c'est parler de l'éternité, oui, bien sûr, mais aussi d'une expérience générationnelle. En 1964, quand les Lionceaux adaptent Hard Day's Night en français, ils chantent la Beatlesmania au présent de l'indicatif, avant que 13 ans plus tard, Laurent Voulzy, qui l'a vécu, la chante à l'imparfait.
Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Ensuite, les Beatles vont devenir une référence pour la génération qui les a découverts après leur séparation. Ils sont un mythe, certes, mais aussi la réalité d'un répertoire d'une influence encore puissante sur les imaginaires de la chanson française. Entre 2003 et 2013, la figure de Ringo Starr chez la Grande Sophie, Liverpool chez les Whippers Circus, le légendaire concert du Shea Stadium chez Vincent Delerme, la malchance de Peter Best chez Benoît Carré.
Ringo Starr.
Jamais allé à Liverpool, mais quelques amis me l'ont chanté.
Alors j'ai hurlé dans le Shea Stadium. Alors j'ai crié I love you, John.
Ils chantent Love, Love Me Too. Pourquoi ils m'ont viré?
Et ensuite, pour autant que les paroles des artistes des musiques populaires soient un indice, les Beatles deviennent peu à peu une référence, et seulement une référence. Un nom de star puissante du passé, cité parfois un peu au hasard. Entre 2009 et 2022, un vague souvenir chez Aurel San, HK et les Saltimbanques, Roméo Elvis.
Je suis les Beatles pour les jeunes ados.
On fera jamais les Beatles, on n'aura jamais le pognon.
Café, 7h du mat. Des Beatles.
Ainsi va le temps. Il n'y aura sans doute plus jamais d'inédits des Beatles qui ne sont peut-être plus autant indispensables à la découverte de la pop pour les jeunes artistes d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils changent les Beatles. Leur chanson la plus écoutée depuis l'apparition du streaming n'est pas un de leurs numéro 1 de jadis. C'est une chanson de 1969 sur l'album Abbey Road. En voici la prise numéro 9 présente sur Anthologie 4, Here Comes the Sun.
Ces chansons qui font l'actu avec Bertrand Dical.
Quand on est parent, on veut toujours protéger ses enfants, évidemment. Mais on ne sait pas toujours très bien comment.
En tout cas, pour les protéger des cancers HPV, c'est simple. On peut les faire vacciner chez un médecin, un pharmacien, une sage-femme, un infirmier ou dans un centre de vaccination. La vaccination est recommandée pour les filles et les garçons dès 11 ans. Et désormais, elle est proposée gratuitement dans les collèges aux élèves de 5e et de 4e.
Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Le temps, Patricia Charbonnier.
Le temps sera très instable en début de semaine avec de la pluie et le redoux qui va gagner du terrain demain vers les régions de l'Est. Mais la météo s'annonce très agitée avec de la pluie toute la journée entre les frontières de l'Est, le Massif central et le Sud-Ouest. Et puis gagneront le quart sud-est dans l'après-midi. On attend des cumuls assez importants, notamment sur la Corse, sur le Sud-Ouest. De fortes chutes de neige sur les Alpes du Nord avec un risque d'avalanche qui sera très marqué demain. Et sur la moitié nord du pays, le temps restera assez nuageux avec de fréquentes averses, parfois fortes, orageuses, accompagnées de grésils sur les côtes de la Manche et sur la Bretagne, avec des températures en forte hausse demain matin sur le quart nord-est du pays. 3 degrés à Nancy, 4 à Dijon, et dans l'après-midi, on attend 17 degrés de maximum à Perpignan, 11 à Quimper, 9 à Paris.
Vous écoutez France Info, il est 17h30. Un nouveau point sur l'info avec vous, Sarah Ders.
Le plan de paix de Donald Trump pour l'Ukraine est-il encore négociable? L'attente en Suisse, où sont réunies depuis ce matin des délégations américaines, ukrainiennes et européennes pour tenter d'amender, de réécrire ce document en 28 points des États-Unis, jugé trop favorable à la Russie. Donald Trump accuse l'Ukraine de ne faire preuve, je cite, d'aucune gratitude envers les États-Unis. De son côté, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, assure qu'il va s'entretenir demain sur l'Ukraine avec Vladimir Poutine. L'ambassadeur de Russie en France en visite demain sur l'île d'Oléron, et dans ce contexte de guerre en Ukraine, la préfecture assure qu'il n'y aura aucun accueil protocolaire. L'ambassadeur russe vient fleurir les tombes de 4 soldats soviétiques ayant contribué à libérer l'île pendant la Seconde Guerre mondiale. Une convention citoyenne propose une nouvelle organisation des journées à l'école après 5 mois de travail collectif. Les 130 citoyens tirés au sort dévoilent aujourd'hui leur rapport et plaident pour 5 jours d'école, des cours de 45 minutes ou encore 2 zones de vacances. Émotion à Calais, une sortie à vélo organisée, une centaine de personnes pour rendre hommage à Cindy Morvan, ancienne championne de France cadette sur piste. Elle a été tuée par arme à feu fin octobre par la nouvelle compagne de son ancien conjoint. Dans le nord-est de la France, un réseau de trafic d'héroïne démantelé, 26 kilos de drogue saisie, 6 personnes interpellées et présentées au parquet de Charleville-Mézières. L'héroïne était distribuée via le réseau social Snapchat et livrée dans les Ardennes et l'agglomération nantaise. Un premier foyer de grippe aviaire en Haute-Vienne, dans un élevage de volailles d'Arnac-la-Poste, avec comme conséquence l'abattage total de toutes ces volailles. En tout, une vingtaine de foyers de grippe aviaire recensés en France ces dernières semaines. Les résultats, 13e journée de Ligue 1, de football, match nul entre Auxerre et Lyon, le PSG toujours en tête du classement.
Sarah Ders pour l'info. Merci et à tout à l'heure. À suivre, faut-il rouvrir le débat sur les rythmes scolaires? La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant fait 20 propositions au gouvernement, notamment instaurer un 5e jour d'école obligatoire à partir du CP. Et puis le tout premier salon national consacré aux algues, ça se passe aujourd'hui et demain à Rennes, avec l'objectif de révéler la richesse et les usages multiples des algues, notamment dans l'alimentation et dans la santé. On en parle dans une dizaine de minutes.
France Info, 17h20. Thomas Séchier.
Les journées d'école sont trop denses, les temps libres de plus en plus rares et les enfants subissent un modèle de société qui valorise la productivité et la performance. C'est le constat de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. 133 citoyens tirés au sort qui ont planché pendant près de 6 mois sur la question et qui ont adopté aujourd'hui leurs conclusions. 20 mesures qui vont être transmises au gouvernement. Alors Noémie Bonin, quelles sont précisément ces mesures?
Eh bien, ces citoyens font déjà le constat qu'aujourd'hui, l'organisation des temps des enfants repose surtout sur les contraintes des adultes, de leur emploi essentiellement ou des transports, et ne prennent que partiellement en compte leurs besoins physiologiques. Des experts estiment que 20 à 30% des jeunes souffrent d'un manque chronique de sommeil. Alors les participants à cette convention proposent donc de réorganiser la journée avec un début de cours retardé à partir de 9h seulement au collège et au lycée. Ça réduirait la fatigue des ados et favoriserait les apprentissages. Des chercheurs ont montré que l'attention et la concentration sont plus élevés à partir de 9h30. Il souhaite aussi placer les enseignements théoriques le matin pour consacrer l'après-midi à des activités pratiques. On pense au sport, aux arts, mais plus original, les citoyens proposent des ateliers de la vie courante, bricolage, cuisine, couture, ménage, plomberie ou encore gestion financière et même préparation aux impôts. L'idée est de favoriser l'émancipation et de réduire les inégalités filles-garçons en enseignant à toutes et tous ces mêmes activités.
La question des devoirs, Noémie, est aussi abordée.
Oui, il faudrait pouvoir les faire beaucoup plus à l'école, peut-on lire dans ce rapport, pour ne plus avoir cette charge considérée comme lourde à la maison, source de fatigue, de tension parfois et d'inégalité. Pour alléger les journées scolaires, les citoyens imaginent en contrepartie une semaine d'école à 5 jours, du lundi au vendredi, alors qu'aujourd'hui les enfants n'ont pas classe le mercredi dans 90% des communes.
Noémie Bonin, vous restez avec nous parce qu'on va parler également de la question des vacances. La Convention citoyenne s'est exprimée sur ce sujet, mais d'abord sur cette préconisation de revenir à une semaine de 5 jours. Bonjour, bonsoir Grégoire Borst.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'université Paris-Cité. C'est loin d'être la première fois qu'on envisage de modifier les rythmes scolaires. Est-ce que ces mesures et précisément le passage à une semaine de 5 jours vous paraît pertinent, vous paraît plus respectueux des besoins des enfants ?
Oui, c'est exactement, en tout cas, en adéquation avec ce que dit la littérature scientifique du point de vue des rythmes scolaires. On sait qu'effectivement, les rythmes scolaires sur 5 jours favorisent une rythmicité du sommeil qui permet à l'enfant globalement de se décaler, puisque en fait, ce qu'on voit essentiellement, c'est que quand les enfants n'ont pas classe le mercredi, ils décalent leur temps de sommeil entre le mardi et le mercredi matin. Ils ont du mal entre le mercredi et le jeudi matin de reprendre un rythme qui leur permette de dormir suffisamment, d'où le fait qu'ils soient un peu fatigués sur le jeudi et le vendredi. Alors, on sait que c'est difficile pour les communes de mettre ça en place, mais c'est vrai que c'est un véritable enjeu, y compris d'égalité entre les familles.
Ça peut paraître paradoxal de dire que les enfants ont des journées trop denses et de préconiser, dans le même temps qu'ils viennent à l'école un jour de plus, le mercredi. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir peut-être plus de journées de cours, mais des journées moins chargées. C'est ça la philosophie ?
Oui, c'est ça la philosophie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand on regarde d'autres pays européens, c'est exactement ce qu'on observe. C'est-à-dire que globalement, le temps scolaire est plus distribué dans la journée. Et il y a aussi effectivement cette proposition d'avoir des activités qui relèvent plus d'activités manuelles à des moments de la journée. Et tout ça favorise finalement l'engagement dans les apprentissages, parce que c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire comment on va favoriser un rythme scolaire qui, et je pense que c'est bien qu'on l'ait dit, soit réellement, je dirais, pensé pour les enfants et au regard des contraintes et des besoins physiologiques de l'enfant.
Alors, il y avait déjà eu une tentative de passer à la semaine, pas de 5 jours, mais de 4 jours et demi, avec cours le mercredi matin. C'était sous François Hollande, en 2013, la réforme Vallaud-Belkacem abandonnée finalement quelques années plus tard, sous la pression notamment des communes. Pourquoi n'arrive-t-on pas à se mettre d'accord sur ce sujet des rythmes scolaires en France ?
Ben parce que, et c'est aussi dans le rapport, je pense que la commission citoyenne a bien planché là-dessus, il y a un véritable problème aujourd'hui de continuité éducative. C'est-à-dire comment on pense au sein d'un même la continuité entre le scolaire, le périscolaire et l'extrascolaire. Et c'est un peu là-dessus que le changement des rythmes scolaires avait buté. Et puis, pour des questions de moyens, c'est-à-dire qu'en fonction des mairies, il n'y a pas forcément suffisamment de fonctionnaires territoriaux pour prendre en charge globalement des activités péri- et extrascolaires. Mais c'est vrai que si on distribue le temps scolaire sur l'ensemble de la journée du mercredi, peut-être qu'on va pouvoir effectivement avancer sur cette réforme.
Ouais. Grégoire Borst, vous restez avec nous parce que la Convention citoyenne dit plein d'autres choses, notamment au sujet des vacances. Là aussi, c'est un sujet sensible. On sait qu'Emmanuel Macron aimerait réduire les vacances, notamment les vacances d'été. Il en parle régulièrement. Noémie Bonin, que propose la Convention sur ce sujet des vacances ?
Eh bien, de les garder telles quelles, ou presque. L'idée serait de réduire les zones de vacances de 3 actuellement à 2. Ça permettrait d'avoir des périodes de cours plus équilibrées pour tous et plus respectueuses des rythmes chronobiologiques. Aujourd'hui, si vous êtes en zone A, B ou C, le nombre de semaines d'école est différent entre les petites vacances. Avoir seulement 2 zones permettrait aussi à toutes les régions d'avoir au moins une semaine en commun. Le rapport ne préconise donc pas de réduire les vacances scolaires, même si certains citoyens défendaient cette orientation. Le sujet n'a pas fait consensus.
Pas touche donc aux 16 semaines de vacances annuelles. Grégoire Borst, les élèves ont vraiment besoin de se reposer pendant ces 16 semaines ?
Oui, ils ont besoin de se reposer. Et puis, je rappelle quand même qu'on a un certain nombre d'exemples, hein, d'autres pays européens ou dans le monde qui ont des de vacances scolaires qui sont relativement similaires avec celles proposées en France et qui, pour autant, présentent soit des résultats aux évaluations internationales qui sont plutôt supérieurs à celles de la France, mais au-delà de ça, des inégalités scolaires moins marquées qu'en France. Donc, en fait, ils ont bien réfléchi, hein, cette convention citoyenne. Effectivement, la recette facile, ce serait de dire, on va réduire le nombre de vacances scolaires, mais en fait, c'est pas forcément au bénéfice de l'enfant. Ils ont bien fait, effectivement, de maintenir l'idée qu'on n'apprend pas simplement à l'école. Le temps extrascolaire, c'est aussi un temps dans lequel on peut apprendre, mais avec l'enjeu, effectivement, aussi de proposer des activités qui soient de nature à pouvoir développer des compétences importantes pour l'école au cours de ces activités-là.
C'est ça, parce que certains disent que les vacances prolongent finalement les inégalités, avec d'un côté ceux qui ont la chance de partir, de voyager, ceux qui ont des parents qui leur font faire des devoirs, et puis ceux qui restent chez eux et qui ne vont pas mettre à profit ces semaines pour travailler.
Tout à fait, et c'est exactement comme ça qu'il faut penser la problématique, c'est-à-dire déjà, qu'est-ce qu'on va proposer aux enfants de milieux sociaux moins favorisés pour qu'effectivement, ces temps-là qui sont des temps de vacances, on puisse leur proposer des activités de très bonne qualité. C'est pas simplement en réduisant le nombre de vacances qu'on va réussir. Égalité, il y a eu d'autres, il y a des précédents, des tests qui ont été faits de ce point de vue-là et ça fonctionne pas. Donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on propose comme activité extrascolaire de qualité pour ces enfants de milieux sociaux défavorisés, parce que vous avez entièrement raison, les enfants de milieux sociaux favorisés, ils continuent à apprendre pendant l'été et continuent à progresser, alors que c'est moins le cas pour les enfants de milieux sociaux défavorisés.
Grégoire Borst, le rapport de cette convention citoyenne préconise également tout un tas de choses, notamment de repenser le bâti, les bâtiments, les espaces scolaires pour offrir un environnement plus agréable, plus chaleureux, car aujourd'hui beaucoup d'établissements sont vétustes, mal isolés, peu adaptés. Ils peuvent engendrer du stress et de la fatigue, mais aussi les phénomènes de harcèlement et de violence. C'est vraiment un ensemble de sujets, c'est une globalité en fait à laquelle il faut s'attaquer.
Et je pense qu'il faut prendre conscience que quand nous avons dans notre pays plus de 30% de la population adolescente qui présente des symptômes dépressifs, quand nous avons dans ce pays des enfants et des adolescents qui disent avoir des difficultés à l'école parce qu'ils ne se sentent pas bien dans le cadre scolaire, il faut effectivement une grande loi programmatique pour l'école, quelque chose sur lequel on pense un temps long, 10-15 ans, effectivement aussi réfléchir au bâti scolaire, mais c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir le bâti scolaire au et des problématiques qui se posent, notamment sur la question du bien-être scolaire, parce qu'on sait que des enfants qui vont bien, c'est des enfants qui apprennent mieux.
Merci beaucoup Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. Vous êtes également le directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant rattaché au CNRS, invité de France Info ce soir. Direction la Belgique, les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique s'intéressent aux stéréotypes de genre, à leur présence continue dans l'art au fil des siècles, mais aussi à la manière de les déconstruire. L'exposition Art et Gender vient d'ouvrir cette semaine à Bruxelles et suscite déjà la curiosité de nombreux visiteurs adultes et enfants. Fabien Cazot.
Avec son groupe d'une vingtaine d'enfants du primaire, la guide Sarah Cordier s'arrête devant un tableau du peintre belge Roger Ravel, marié. Les femmes se tiennent la main.
Regardez un petit peu comment il a dessiné l'homme et la femme. Qu'est-ce qui vous...
La femme regarde l'homme.
Donc l'homme nous regarde nous, en effet, et la femme regarde l'homme.
L'homme porte des vêtements colorés, la femme une tenue blanche, fantomatique. De quoi susciter des réactions chez les jeunes visiteurs.
Les garçons, on veut tout le temps qu'ils soient en premier plan. Je trouve ça injuste. Avant, on disait tout le temps que les garçons étaient supérieurs aux filles. Du coup, les artistes essayent de changer un petit peu ça.
Illustration avec l'œuvre assez inhabituelle pour un musée des Beaux-Arts présenté en début de parcours, une machine à laver des années 70 décorée par l'artiste féministe Olga Morano. Cet autre guide, Jean-Philippe Teskens, explique à un public adulte de quoi il s'agit.
Elle va sexualiser cet objet. Observez un peu de fourrure là, à l'ouverture du tambour, des objets qui ont été glissés à l'intérieur de ce tambour, des bouteilles qui étaient destinées à contenir du lait où des petits cœurs vont parler du désir.
Le thème de la masculinité est lui aussi questionné un peu plus loin par une statue d'Hercule fatigué ou encore le portrait d'un homme du XVIIIe siècle poudré de rose sur les joues. Les stéréotypes passent aussi par les couleurs, explique une des commissaires de l'exposition, Audrey Lasserre.
La question du rose comme couleur à signification sociale, rose féminin ou rose masculin.
De quoi déboussoler ce touriste italien Albano face à une aquarelle de Marie Laurencin.
C'est un homme ou une femme avec l'écharpe rose. Je ne sais pas trop, ça a dû être fait exprès. C'est impressionnant.
Objectif atteint, se réjouit le directeur des musées royaux, Kim Osterlink.
Le rôle du musée ne peut pas se limiter à montrer des belles œuvres. Il a un rôle sociétal. C'est de se positionner comme un lieu où on réfléchit, un lieu où on questionne, un lieu où on avance ensemble.
L'exposition Art X Gender est ouverte à Bruxelles jusqu'au printemps prochain.
Fabien Cazot à Bruxelles pour France Info. Dans un instant, on va tenter de réhabiliter l'image de l'algue avec un tout premier salon consacré aux algues.
Après la découverte du feu qui a changé le cours de l'humanité, après la création de l'ampoule électrique et l'invention du télescope, voici probablement la plus grande innovation qui a changé la vie des patrons de PME.
Avec Onto, vous fixez des plafonds mensuels pour chaque carte. Vous êtes notifié en temps réel des dépenses de vos équipes et vous validez leurs demandes en un clic. En bref, vous faites gagner à votre équipe finance jusqu'à 2 heures par semaine en moyenne. Et ça, ça change la vie. Conto. Total Economic Impact, réalisé pour Conto par Forrester Consulting 2025.
France Info, 17h-20h.
Il est 17h45, à la une de votre fil info, Sarah Ders, la permission de sortie accordée à un détenu de Vandalviel.
La réaction du ministre de la Justice sur X, notre cadre législatif d'application des peines doit être pleinement revu, estime Gérald Darmanin. La justice a autorisé une permission de sortir à un détenu du nouveau quartier de lutte contre la criminalité organisée de la prison de Vandalviel demain pour un rendez-vous professionnel. Américains et Ukrainiens discutent en ce moment à Genève du plan de paix de Donald Trump pour l'Ukraine. L'État Kiev craint d'être poussé à une capitulation. Et cette annonce, à l'instant, les États-Unis et l'Angleterre sont d'accord pour travailler tous ensemble en ce moment critique. Le budget de la sécurité sociale pour 2026. Les sénateurs rétablissent à main levée la vaccination obligatoire contre la grippe pour les soignants libéraux. Mesure pourtant écartée par l'Assemblée nationale. 3 matchs de la 13e journée de Ligue 1 de football sont en cours. Après un quart d'heure de jeu, déjà 2 buts entre Brest et Metz, 1-1. Et Angers a ouvert le score à Toulouse. Pas de but en revanche entre Nantes et Lorient à ce stade du match.
France Info.
Révéler la richesse et les usages multiples des algues, notamment dans l'alimentation, l'agriculture ou la santé. C'est la promesse du tout premier salon national entièrement dédié aux algues. Il se tient aujourd'hui et demain à Rennes. Bonjour Philippe Potin.
Oui, bonjour.
Vous êtes biologiste marin, directeur de recherche CNRS à la station biologique de Roscoff dans le Finistère. C'est vrai que les algues ont plutôt mauvaise presse. On met en général sa serviette assez loin des algues échouées sur la plage. Comment expliquer d'ailleurs ce problème d'image de l'algue en France ?
Cette image, je pense qu'elle est née effectivement des aspects négatifs qui ont été amenés par les pollutions occasionnées notamment par les pollutions d'origine agricole, donc avec aujourd'hui des excès d'azote dans les systèmes qui ont fait que des algues vertes se sont développées, en particulier dans des grandes baies bretonnes qui étaient autrefois des sites touristiques très très importants et qui ont perdu effectivement beaucoup d'attrait par les émanations en fait des gaz qui sont émis par ces algues en décomposition. Donc tout ça, ça a donné une image en disant que les algues, non seulement c'était un petit peu réputé comme étant glissant quand on marchait dessus, mais en plus c'est quelque chose qui sent très très mauvais et qui peut même dans certains cas provoquer la mort d'animaux et puis éventuellement donc d'humains quand on est exposé à ces émanations. Donc c'est sûr que cette image négative, elle a été apportée par tous ces éléments sur lesquels pendant longtemps on a aussi mis une chape de plomb en fait avec un silence sur les origines possibles en fait de ces proliférations et bien sûr en cachant certaines conséquences en fait de la prolifération de ces algues.
Alors pourquoi dites-vous maintenant qu'il faut réhabiliter l'image des algues ?
Eh ben, en fait, les algues, elles étaient déjà présentes dans nos quotidiens et sans que parfois on le sache, hein, puisque aujourd'hui, depuis plus de 70 ans, en Europe notamment, et en France en particulier, on a exploité des algues pour leurs propriétés gélifiantes et épaississantes et on les a retrouvées dans pratiquement tous les, dans notre nourriture d'abord, mais aussi dans beaucoup d'utilisation quotidienne, en particulier le brossage de dents, par exemple, dans le dentifrice. Et donc, sans le soupçonner, les algues étaient là. Et puis, donc, est apparu aussi l'attrait pour la cuisine asiatique et la cuisine japonaise en particulier. Les premiers restos japonais qui sont implantés en Europe, il y a à peu près une trentaine d'années, et donc avec maintenant beaucoup plus encore d'attrait en fait pour la cuisine asiatique avec la cuisine coréenne et autres qui apportent énormément d'algues, et donc les gens ont commencé aussi à découvrir des saveurs des algues qu'ils ne connaissaient pas, et à travers les saveurs aussi des propriétés nutritives qui ont fait que ces algues étaient depuis très très longtemps faisaient partie de la culture culinaire des pays asiatiques.
C'est vrai qu'on redécouvre l'algue grâce notamment à la gastronomie. On peut lire aussi que l'algue peut être bénéfique pour les agriculteurs, notamment pour nourrir les bêtes.
Oui, et nourrir les bêtes, et en particulier stimuler aussi leur santé. Donc pendant très longtemps, on a trouvé des bénéfices à utiliser des antibiotiques à outrance dans les élevages animaux, et on s'est aperçu de toutes les conséquences que ça peut avoir après sur l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc quand il a fallu trouver des alternatives à ces antibiotiques, on est revenu à des solutions naturelles, et en particulier aux algues qui sont très riches en éléments qui peuvent stimuler l'immunité naturelle des animaux, d'ailleurs aussi de l'homme, et qui étaient connues depuis très longtemps finalement, parce que par exemple on trouvait des traces de l'utilisation de ces algues dans la pharmacopée chinoise, et précisément pour soigner par la stimulation de l'immunité un certain nombre de maladies, y compris des maladies très graves comme la leucémie, voire aujourd'hui les Chinois montrent aussi tout l'intérêt que pourraient avoir les algues pour traiter des maladies neurodégénératives, en tout cas les prévenir à travers l'alimentation.
Justement, Philippe Potin, où en est-on aujourd'hui dans l'utilisation de l'algue et de ses bienfaits? Est-ce qu'on en tire toutes les ressources qu'on en pourrait?
Alors, on n'en tire qu'une partie des ressources qu'on pourrait. Là où des marchés ont pu se développer, justement, c'est dans le domaine d'utilisation dans l'alimentation animale, la santé animale, comme on a pu le voir, sur la santé aussi des plantes. Hein. Donc, aujourd'hui, on peut s'affranchir de l'utilisation de pesticides sur des cultures par l'utilisation d'extraits d'algues qui était quelque part réminiscent de ce qu'on faisait lorsque... dès le 15e siècle, en fait, on a apporté des algues comme amendement dans les terres. Donc ça, c'est des utilisations qui ne demandent pas d'homologation très très longue. Quand on est dans des domaines plus proches du domaine médical, par exemple, ça peut demander beaucoup plus de temps de développer des solutions. Donc il y a eu un intermédiaire, ça a été un petit peu l'explosion d'actifs et d'ingrédients d'algues qu'on a retrouvés dans les produits cosmétiques, parce que pour développer ça de manière sur la peau, ça demande moins de développement, effectivement, moins de dossiers lourds comme on peut avoir d'études cliniques dans le domaine d'applications médicales ou même dans le domaine de la nutrition.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Potin d'être passé par France Info. Si on veut en savoir plus donc sur l'algue et ses bienfaits, je vous invite à vous rendre à ce tout premier salon national consacré aux algues. Ça se passe à Rennes jusqu'à demain. Philippe Potin, biologiste marin au CNRS et vous travaillez également au laboratoire de biologie de Roscoff dans le Finistère. On reste en Bretagne où l'on fait également de plus en plus de vin ces dernières années. La culture de la vigne se développe dans la région. Elle avait disparu au siècle dernier et elle se professionnalise de plus en plus. Vous l'avez constaté, Alexis Arad, à Quimper, à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Association pour la reconnaissance des vins bretons.
C'est un changement de législation qui a permis aux Bretons de produire et commercialiser du vin. Yves Abotret, président de l'Association pour la reconnaissance des vins bretons.
Les premières plantations datent de 2017-2018. Ils ont démarré à 6, aujourd'hui ils sont 50. On est aux alentours de 200 hectares plantés et on en plante tous les hivers.
Karim Khan, restaurateur hôtelier près de Rennes, a décidé de se lancer.
Nous, on adore le vin, on suit le vin depuis des décennies, je dirais. On a beaucoup de personnel qui est très impliqué dans le monde du vin. Avec les opportunités du réchauffement climatique, c'était naturel pour nous de faire un vignoble.
Le réchauffement climatique favorise en effet l'extension de la viticulture en Bretagne, souligne Yves Abotret.
Les études le montrent, la vigne remonte sur l'hémisphère nord. Elle s'implante dans plein de territoires qu'elle avait connus par le passé ou qu'elle avait abandonnés. et les conditions sont réunies.
Les vignes sont surtout situées en Haute-Bretagne, mais celles du Finistère vont aussi se développer, selon Daniel Gézoin, responsable du coteau du Braden à Quimper.
On a constaté qu'on est quand même un peu embêté par l'humidité du climat. On attendra peut-être quelques décennies avant que dans le Finistère, on puisse faire des vins qui se plaisent très bien un peu plus en sud, notamment dans le Val-de-Loire.
Les vins bretons ne sont en tout cas pas prêts d'envahir le marché. L'ensemble du vignoble va produire environ 150 000 bouteilles cette année.
Alexis Arad, ici Brézizel, ex-France Bleu. Pour France Info, voici Nouveau Monde. Avec cette nouvelle étape franchie par l'intelligence artificielle. Bonsoir Nicolas Arpagian.
Bonsoir Thomas.
On a l'habitude de dire, Nicolas, que les technologies sont en principe agnostiques, c'est-à-dire ni bonnes ni mauvaises par nature. Tout dépend de l'usage qui en est fait. Or, pour la première fois, une intelligence artificielle aurait organisé une activité malveillante.
C'est un scénario qu'on envisageait de longue date avec la montée en puissance des capacités des modèles d'intelligence artificielle. L'alerte vient d'être donnée par la société Anthropic, une entreprise américaine d'intelligence artificielle fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI. Elle développe Claude, une famille de grands modèles de langage, et affirme dans un rapport publié mi-novembre 2025 que celui-ci a été utilisé pour conduire une opération complexe de cyberespionnage. Les pirates ont notamment exploité le fonctionnement agentique de cette IA. Il ne s'agit plus de poser une question unique appelant une seule réponse, mais bien de formuler une demande élaborée qui va amener l'IA agentique donc à décomposer cette requête en une série de tâches aboutissant à concrétiser au final un objectif sophistiqué. Ici, l'attaquant a commandé à Claude un programme de piratage en découpant sa demande par étapes successives. Identifier et découvrir des vulnérabilités chez sa cible, les exploiter, effectuer un mouvement latéral pour circuler dans les infrastructures de sa victime, collecter des informations d'identification, analyser les données et procéder à leur exfiltration afin de les récupérer, soit un cambrioleur qui entre dans l'appartement, cherche des objets de valeur, les identifie, puis les emporte à l'extérieur.
Qu'est-ce qui est nouveau dans cette histoire ?
Selon les ingénieurs d'Anthropic, l'IA a procédé pour l'essentiel de manière autonome pour accomplir la mission qui lui avait évidemment été confiée par un humain, afin de contourner les règles qui brident les IA pour ne pas réaliser en principe d'actions malveillantes. Le dit humain, à la manœuvre, semble avoir demandé à l'intelligence artificielle de se comporter comme un défenseur qui chercherait à élaborer un scénario d'attaque destiné à l'entraîner à renforcer la protection de son équipement. De quoi lever les réticences des algorithmes à fournir un outil clé en main de piratage de haute volée, puisqu'il s'agirait donc ici d'agir pour la bonne cause. Selon leur examen, 80 à 90% des techniques d'intrusion et d'exfiltration ont été conçues par la seule IA sans contribution humaine.
Et sait-on qui serait à l'origine de cette campagne par IA interposée ?
Alors que les techniciens sont toujours réticents pour attribuer les attaques numériques et désigner un responsable précis, les analystes de la société Anthropic désignent cette fois un groupe d'attaquants parrainés par l'État chinois. Ce qui illustre le fait qu'outre les organisations criminelles, les États sont bien en train d'apprendre et de s'entraîner à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs arsenaux offensifs. Une première qui annonce donc certainement d'autres déclinaisons dans les mois à venir. Vous trouvez les références complètes de ces travaux sur la page de la chronique Nouveau Monde sur le site ou l'application de France Info.
Merci beaucoup Nicolas Arpagian. Voici l'actu des séries à présent. Avec l'événement la semaine prochaine, la sortie de la cinquième et dernière saison de Stranger Things, la série à succès de Netflix, premiers épisodes mis en ligne. Jeudi, Laurent Vallière, vous avez rencontré les créateurs de la série.
Retour à Hawkins, la ville vit sous cloche depuis que la porte qui sépare le monde réel et le monde à l'envers est ouverte.
On est bloqué ici.
L'armée surveille. Eleven est traqué. Sur Terre, les jeunes héros, Mike, Will et leurs amis, ont bien grandi. C'est un retour aux sources et finalement la résolution de la grande énigme que propose cette ultime saison de Stranger Things. Les frères Matt et Ross Duffer, créateurs de la série qui règne dessus depuis 10 ans, connaissent la fin depuis presque le début. Matt Duffer.
On a imaginé la scène finale il y a un moment. Je ne dirais pas depuis la saison 1, car nous n'étions même pas sûrs à l'époque d'avoir une saison 2, mais nous l'avons en tête depuis au moins 7 ans. Et c'était super, car ça nous donnait une sorte d'étoile polaire, une direction. Par ailleurs, on sait depuis toujours ce qu'est le monde à l'envers, et nous allons le révéler au cours de cette ultime saison.
On trouve Vecna, et on en finit une fois pour toutes.
Stranger Things a été un succès surprise pour les frères Duffer, qu'ils n'expliquent pas seulement par un mélange d'histoires fantastiques à la Stephen King et de films pour enfants à la Steven Spielberg, digne des années 80. Matt Duffer.
Beaucoup de gens mettent l'accent sur la nostalgie de la série et je pense que cela fait partie de son attrait, le fait de pouvoir revisiter cette période, les années 80 et les films de cette époque. Mais nous avons aussi un public plus jeune pour qui la série n'a pas été conçue. Au départ, la série a vraiment été faite pour plaire à des gens comme moi et Ross qui avons grandi avec ce type de film. Mais si la série a eu autant de succès, ça tient davantage aux personnages et aux ressentis liés au fait d'être enfant. On a tous été des enfants à un moment donné. Donc il y a une universalité dans le fait de grandir et dans les difficultés liées à l'adolescence.
On doit rester fidèle à nous-mêmes et rester fidèle à nos amis.
Si Stranger Things se déclinera ensuite en série d'animation, en spin-off, les frères Duffer ne seront plus à la réalisation. Ils quittent Netflix pour Paramount afin de réaliser leur rêve. Matt Duffer.
Nous sommes très tristes parce que nous refermons la porte sur cette histoire et ces personnages. Travailler avec ces acteurs et cette équipe va nous manquer. La plupart d'entre eux sont impliqués dans la série depuis 8 à 10 ans. Mais une partie de nous est aussi très enthousiaste à l'idée de pouvoir raconter de nouvelles histoires et de faire un film, cette fois pour le cinéma. Donc on est un peu partagé.
William, tu vas m'aider.
Stranger Things, saison 5, les 4 premiers épisodes à partir de jeudi sur Netflix. Le final, long comme un film, le 1er janvier.
L'Empire des séries, Laurent Vallière, le temps tout de suite.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission, s'engager à ne pas commercialiser